avait du poil serré sur la tête, tandis que lui, Eric, au moins, la grosse Christiane, se détournait en soufflant et ne répondait rien à son père qui l'aidait un peu avec sa retraite de l'usine et apportait des salades ou des pommes de terre, des haricots verts, des carottes de son jardin dans une cagette de plastique remplie à ras-bord et fixée avec des ficelles bleues sur le porte-bagages du vélomoteur. Eric disait à sa grand-mère que le père de la grosse Christiane l'aimait bien, lui faisait des compliments surtout et voulait aussi lui donner la pièce en cachette pour qu'il achète des bonbons quand il serait rentré chez sa mère. Eric pensait au père de la grosse Christiane quand, à la fin de certains repas du dimanche, en bas plutôt qu'en haut, les oncles parlaient du jardin, des légumes et des arbres fruitiers. Ils avaient raconté que leur propre père avait planté le gros prunier de derrière quand ils avaient 12 ou 13 ans. Son âge, il s'en souvenait. Et d'où venait le prunier? De chez une dame de Lugarde qui avait un vrai verger et à qui leur père avait rendu un service. Ils avaient grandi avec l'arbre. Pour finir, le prunier ne valait guère mieux qu'eux, ne donnait pas tous les ans et n'en faisait qu'à sa tête. Ils répétaient ça, l'air content, en avançant un peu le menton, presque comme s'ils allaient rire, mais ils ne riaient pas. Eric avait la passion de Lola. Le matin, elle l'accompagnait au car. Elle dormait à l'étable et venait l'attendre à la porte de l'âne, posément assise sur son derrière, marquant l'imminence du départ d'un bref aboiement de gorge. Si Eric, peu coutumier du fait, se retardait de quelques minutes, Annette les regardait partir, la chienne devançait d'un rien le garçon, le pas mesuré sans exubérance, alerte cependant, et comme pénétrée du sentiment de son importance, trottait sur le chemin aux côtés d'Eric qui se tenait très droit, son sac à dos énorme, bleu et raide, fermement arrimé aux épaules, surveillait la montée dans le car, retournait l'hico à la porte de l'âne, laquelle ne manquerait pas de s'ouvrir sur une assiette de soupe de pain trempée dans du lait tiède, coupée d'eau déposée par Annette à l'intérieur sur le paillasson, laper la soupe avec minutie, en pleine conscience du devoir accompli, avant de redescendre à l'étable pour la fin de la traite, était le rituel des matins d'école qui s'était inventé de lui-même dès la rentrée. Pour Eric, le monde avait été consolé par la grâce de Lola, menue et puissante. Ensuite, dans le cas, les grands de troisième pourraient se moquer de ce nouveau au nom imprononçable et lancer de fortes paroles sur ces gens qui étaient presque des Belges et manquaient de tout là-haut dans leur pays de misère avec rien que des mines et des usines fermées. Les grands pourraient rire gras et japper dans les coins. Eric serait resté assis à sa place, devant, au premier ou au deuxième rang, de préférence derrière le chauffeur, calé dans la chaleur de l'anorak, les yeux fermés sur ses images secrètes. Eric ne pleurerait pas, il attendrait que ça se calme, que les grands de troisième, au bout de 2 ou 3 mois, oublient, l'oubli, s'habituent à lui. Si les oncles et Nicole trouvèrent à redire d'être ainsi privés pendant un bref quart d'heure, chaque matin de classe, de l'aide de Lola, ils surent ne pas protester ouvertement. Nicole osa certes avancer, bougonne, que ce gosse allait finir, à force de courbettes et de gâteries, par détraquer la chienne, une capricieuse que les oncles bichonnaient déjà trop, se laissant gouverner par elle, et la promenant en voiture comme une princesse. Nicole avait toujours eu le réveil-robe et les séances matutinales de soins aux petits veaux, dans l'étable ombreuse, était parfois prétexte à de lancinantes jérémiades dont Paul laissait s'écouler le filet aigre. Il ne répondait pas, le moins possible, voire pas du tout. Il attendait, il connaissait la tactique. Nicole userait sa rengaine du moment, en inventerait une autre, et ainsi de suite. Lola, comme avertie des humaines arguties, savait ne pas faillir quand on avait besoin d'elle, et ne manquerait pas, revenue à son poste, d'arpenter, silencieuse et véloce, l'allée centrale de l'étable, à la seule fin de signaler à tous, bêtes et gens, sa présence diligente. Le moment du retour d'Eric, à la fin de l'après-midi, 4 fois par semaine, était une fête minuscule. Lola jaillissant comme par magie sur le chemin, dès l'ouverture de la porte du car, bourrant à plusieurs reprises sa tête fine et soyeuse dans les jambes du garçon, qui, aussitôt accroupi, et ce par tous les temps, empoignait la fourrure chaude au plus épais, au creux du cou, et récompensait par quelques borborimes choisis l'exubérante et impeccable ponctualité de sa camarade. Le chemin du soir était dansant. Eric pressé, affairé, se trouvant à la fois précédé et suivi de Lola, qui se multipliait, non sans prendre soin d'annoncer à la maisonnée par une bordée de jappements aigus le retour de l'enfant merveilleux. Eric et Lola, dès les premiers jours passés à Fridières, assis sur le mur de la cour devant la maison, avaient inventé leur langue, idiome incongru cousu d'interjections opaques, gutturales, et de mélopées subreptices, accompagnées de caresses 1000 fois réinventées. On les surprenait les deux, pliés, emboîtés, comme aplatis, immobile, le museau de la chienne enserré dans les mains du garçon qui laissait reposer le bout de son menton sur le dessus de la tête velue, entre les oreilles, très exactement au milieu, Eric assurait que Lola avait des sortes de pensées, en était secouée, elle circulait dans son corps, il les sentait passer, lui, sous son poil et entre ses côtes, qu'elle avait fines et dures, à fleurs de pelage. Mieux que quiconque, Lola connaissait les gens de Fridière, un par un et par cœur. Il